From
home. En sol majeur.
Selim Nassib ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à l'amour pour Beyrouth, sa ville natale, et il ne pense qu'à l'amour qui pourrait se vivre entre juifs et arabes. Il n'est pas devenu romancier pour rien. Issu d'une famille juive libanaise, il a vécu et écrit l'intervention militaire israélienne au Liban en 82 pour la presse française. Expérience schizophrénique, sans doute, pour ce journaliste qui préfère depuis quelques années se barrer du côté de l'imaginaire. Tout à l'heure, on évoquera les liaisons dangereuses de Golda Meir, ancienne première ministre israélienne, avec un amant libanais. Et puis, nous poserons la fameuse question qui tue à Tel Aviv. Chut, Selim, on vous entend à la radio. Would you have sex with an Arab? Alors, c'est pas mal la musique, parce qu'on sait maintenant en sol majeur que vous aimez autant Oum Kalthoum que Serge Gainsbourg, qu'on n'a pas eu le temps d'écouter, que Stravinsky dans l'histoire du soldat. Pourquoi cette histoire du soldat version Stravinsky?
Parce que il y avait un célèbre festival au Liban qui était le festival de Baalbek, et ils ont joué l'histoire du soldat, et j'avais trouvé formidable cette histoire de jeune soldat qui vend son âme au diable, qui vend son violon, et qui se retrouve comme un mort parmi les vivants. C'est un peu comme je me suis retrouvé à Paris, en ayant quitté cet endroit où l'histoire se faisait, et moi je regardais les autres comme un étranger parmi eux.
Alors vous aimez Stravinsky, mais vous aimez aussi, juste à côté, une certaine Asmahan, sœur du grand Farid El Atrache, et nous revoilà au Liban, même s'ils ont fait leur vie en Égypte.
Oui, elle était une princesse druze, ouais, syrienne. Asmahan, et elle était beaucoup plus délurée, beaucoup plus libre qu'Oum Kalthoum.
Alors vous avez été rattrapé par une chanson que, entre nous, j'adore aussi, interprétée par Asmahan, qui est très fleur d'oranger, comme ça, Ya Habibi.
Ta'al. Ya Habib, ta'al.
Mon amour vient.
Mon amour vient, regarde ce qui m'est arrivé depuis que tu es parti.
Étonnante cette chanson musicalement.
Tout à fait. En fait, toute la musique de l'époque était tentée par quelque chose d'hybride. C'est-à-dire qu'il y avait une telle volonté d'atteindre la modernité dans le monde arabe. Et que cette modernité ne soit pas juste une copie de l'Occident, mais un modernisme oriental. Que dans la musique, dans la pensée, dans le roman, vraiment dans tous les... Il y avait cet espoir insensé d'appartenir au monde. Et vraiment, ça, c'est une clé du monde arabe. Et le problème jusqu'aujourd'hui, c'est celui-là. L'islamisme est venu comme un mouvement de colère parce qu'on n'a pas appartenu au monde. Et à ce moment, des gens ont dit, eh ben, puisque le monde ne veut pas de nous, nous, on va tourner le dos et repartir vers nos racines, parce que ça, c'est vrai.
Would you have sex with an Arab?
With what?
With an Arab.
With a Arab? A woman Arab?
V.
Would you have sex with an Arab?
Yes.
V. Come.
Would you have sex with an Arab?
No, I don't think so, because I'm Jewish.
Vieille lune.
C'est un film qui commence par un baiser, un très long baiser entre une fille peut-être palestinienne et un garçon peut-être israélien, ou l'inverse. C'est la nuit dans les lieux interlopes de Tel Aviv où juifs et arabes vivent sans se voir, et tout à coup, dans ce film, la question de Yolande Zoberman avec votre complicité, Selim Nassib, fuse en anglais. Would you have sex with an Arab? Est-ce que vous feriez l'amour avec un arabe? Réponse.
So when I met Nasser and I knew that he's a Palestinian, I couldn't in one second forget the fact that he's a Palestinian.
Quand j'ai rencontré Nasser et j'ai su qu'il était palestinien, je n'ai pas pu une seconde oublier qu'il était palestinien.
And then it was impossible for me.
Alors c'était impossible pour moi.
Possible, but it was impossible because
c'était quand même possible, mais impossible. Parce que j'appartiens tellement à la génération qui croyait à la paix, au processus de paix, à la discussion, aux relations avec les Palestiniens. Alors quand j'ai rencontré un Palestinien, j'ai tout de suite voulu lui faire l'amour. Parce que c'était ce que je pouvais faire de mieux pour aller au bout de la rencontre. C'était faire l'amour. Je ne vois pas d'autre dénouement. Alors quand on l'a fait, c'est moi qui faisais la paix avec un peuple. Faire l'amour, c'était faire la paix. C'était fou.
Franchement, c'est l'une des plus belles réponses que vous ayez récoltées dans ce film. Votre belle question, would you have sex with an Arab? Ça marche aussi avec with a Jew, avec un juif. Réponse, c'est un acte politique anti-érotique, Selim Nassib. Ça vous fait rire, vous-même?
Oui, c'était une expérience vraiment formidable. Tout ça est parti du fait, d'abord, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il était le petit-fils de l'amant palestinien de Golda Meir quand elle avait 28-29 ans. Donc j'ai fait une enquête, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai quand même écrit un livre sur ça. Et ensuite, avec Yolande, avec qui je vis, on a commencé à écrire un scénario pour adapter ce livre à l'écran. Et à un moment, on s'est dit que c'était dissymétrique, le désir, que pour les juifs, par exemple, il y avait une raison supplémentaire pour ne pas avoir une relation avec un arabe, parce qu'ils sont là comme juifs parmi les juifs pour faire Israël. Et donc il y avait un interdit supplémentaire. Et Yolande n'était pas... Elle a pris son micro et elle a demandé à quelqu'un qui était à côté dans une boîte de nuit « Would you have sex with an Arab ?» Et la première question a déclenché une réponse un peu surprise de la jeune fille à qui on l'a posée, parce qu'elle n'y avait même pas pensé. C'est-à-dire que ce n'était pas à ses yeux un objet de désir, un arabe. Et du coup, elle s'est dit, mais peut-être que je suis raciste. Et de fil en aiguille, bon, je vous passe les détails, c'est devenu un film. Mais c'était un film comme un film de recherche dans le cadre d'un film de fiction que nous étions en train de préparer et dont le scénario vient d'être fini.
Et que vous avez tourné avec donc une lampe de poche?
Voilà, il y avait une lampe de poche, il y avait un appareil photo, Leica, mais oui, un tout petit appareil photo, et un micro pour le son.
Alors, qu'est-ce que révèlent les réponses qui ont été posées à cette génération israélo-arabe?
Eh ben, d'abord, c'est pas sociologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la prétention de dire que c'est un film qui représente Israël. Bon, comme je suis plus politique que Yolande, je disais, bon, on a tout dit sur le problème israélo-palestinien, pas encore. Et elle continuait à dire, mais il y a un espace, et cet espace, c'est l'espace du désir. C'est un espace intime. Et cet espace-là, il n'a pas été exploré, parce que les gens là-bas, en Israël, qu'ils soient arabes ou juifs, savent ce qu'ils pensent. Si on dit « qu'est-ce que vous pensez ?», ils sont intarissables. Parce que la question est déjà dans leur... la réponse est déjà dans leur tête.
Sauf sur cette question du désir, alors là, trouble
mais
arrive.
Parce qu'il ne s'agit pas de penser.
Quelles ont été les réponses qui vous ont le plus surpris?
C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la réponse qui est importante. Ce qui est important, c'est que le fait de réagir à cette... révèle des histoires entières. Par exemple, cette fille qui est en chaise roulante, qui raconte comment elle a été obligée de sacrifier son amour pour un juif.
Cette fille qui est une palestinienne.
Qui est palestinienne, qui a préféré ne pas y aller parce que c'était trop compliqué.
En même temps, ce que ça révèle, c'est qu'être un couple mixte, c'est quand même quasiment un crime encore aujourd'hui à Tel Aviv. Et pire, être le fruit d'un couple mixte peut être dommageable encore plus. Vous dédiez d'ailleurs votre film à un certain Giuliano Merhamis, je ne sais pas si on prononce comme ça.
Absolument.
Qui a été assassiné en avril 2011 devant son théâtre, le Théâtre de la Liberté. dans le camp de réfugiés de Jenin. Racontez-nous son histoire.
Ah, lui, c'est une histoire extraordinaire. Lui, il était assez connu. C'est un acteur assez connu qui est très, très viril, très drôle, très, un succès fou. Vraiment, c'est quelqu'un qui a marqué vraiment tout le théâtre et le cinéma israélien. Sa mère est juive, son père est arabe. Sa mère a créé un théâtre dans le camp palestinien de Jenin. Et quand elle est morte, il a pris la suite. Et donc, il passait son temps à faire le chemin entre Haïfa, où il a une maison, et le camp de Jenin, où il a le théâtre. Et il a reçu un certain nombre de pressions, un certain nombre de menaces, parce que le milieu traditionnel du camp de réfugiés n'acceptait pas tellement qu'il y ait un metteur en scène qui fasse monter des filles sur scène, qui leur donne des caméras pour qu'elles aillent filmer chez elles, qui monte une pièce d'Orwell dans laquelle il est question de cochons. C'est pas de l'islamisme au sens propre, mais c'est juste la société traditionnelle qui ne supporte pas cette ouverture d'esprit. Et donc, Yolande lui pose la question, would you have sex with an Arab? Et lui, il répond très violemment en disant, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas au lit qu'on va résoudre le problème, il y a un vrai problème. Et elle résiste et elle répond, et ça donne cet échange extrêmement vif qui a marqué vraiment le centre du film. Et 2-3 mois après la fin du tournage, on apprend qu'il a été assassiné à Jenin, à la porte de son théâtre, dans sa voiture, par quelqu'un qui parlait arabe, qui l'a appelé, qu'il connaissait sans doute, qui lui a mis 3 balles dans la tête.
Alors, assassiné...
Alors, assassiné par qui? On ne sait pas. C'est-à-dire que les services israéliens n'ont pas eu l'air d'être très pressés de savoir, les services palestiniens non plus. Mais, quand il est mort, quand même, les autorités israéliennes ont permis à son cercueil de passer de Haïfa jusqu'à Jenin, dans un sens et dans l'autre, sans être dérangé, ce qui fait qu'au moins, quand on est mort, on peut passer des frontières.
Alors en même temps, vous le disiez, ce qui a déclenché ce film, c'est justement une autre histoire folle, celle de Golda Meir, la passionnariat du sionisme, qui est tombée un jour dans les bras d'un amant libanais. L'histoire se passe en Palestine dans les années 20, lorsque les frontières de la région ne sont pas encore vraiment bien décidées. Golda Meir, à ce moment-là, est une jeune femme déjà libre et extrêmement passionnée et subjuguée, je dirais, par un banquier libanais du nom d'Albert Pharaon. Petit extrait de votre roman, Un amant en Palestine. Selim Nassib.
Pour Albert, avoir une maîtresse juive n'a rien d'extraordinaire en soi. Haïfa regorge d'histoires d'amour et de sexe entre juifs et arabes. Certains vivent même ensemble. C'est Golda qui est particulière. Son sionisme est un sacerdoce, une passion, le sel même de sa vie. Elle est venue en Palestine précisément pour cela, être une juive parmi les juifs. S'il était découvert, son amant palestinien ferait voler en éclats le principe même de son engagement. Et puisque cette histoire ne peut exister, elle n'existe pas.
Alors d'après ce que vous nous disiez tout à l'heure, Selim Nassib, cette histoire n'est absolument pas le fruit de votre imagination.
Comment dire? Mon ami me dit, je suis le petit-fils de cet amant, qui est libano-palestinien, par son père, par sa mère. Bon, ça me paraissait totalement incroyable. Je dis, mais d'où tu sais? Il me donne l'adresse de quelqu'un qui vit au Caire, une vieille dame, que je vais voir, et qui me raconte dans le détail l'histoire, mais qui ne me montre rien qui prouve que c'est vrai. Donc je reviens chez mon éditeur, je dis, voilà, si vous pensiez avoir un scoop, c'est pas un scoop. Je n'ai rien pour prouver. Mais c'est intéressant en soi-même. La construction littéraire, le fait de parler de cet amour impossible, presque impossible, de montrer quel est ce presque dans l'amour, c'est en soi une façon d'éclairer de façon beaucoup plus intime de l'intérieur toute cette histoire. Au fond, moi, je m'en fiche que Golda Meir ait couché avec un arabe ou non. C'est pas ça qui compte. Les deux sont morts et c'est fini.
Bah, c'est quand même très très intéressant parce qu'elle incarne cette figure absolument pure et dure du sionisme. Bon. Comment?
Bon, d'accord.
Oui.
Alors, elle a eu un amant palestinien.
Voilà. Alors, pour asseoir ce presque possible, qu'est-ce que vous allez chercher comme élément tangible dans la biographie de cette jeune fille née à Kiev et qui a connu les pogroms?
Eh bien, j'ai été rencontrer ses biographes, j'ai rencontré ses enfants, j'ai rencontré toutes sortes de gens qui la connaissent. J'en suis sorti avec « ça ne peut être qu'une exception
oui. ».
Ça ne peut être qu'une exception, parce
oui,
que rien
en même
dans
temps,
son...
Vous dites que dans le roman, cet Albert Pharaon, qui lui a bien existé,
absolument.
On est bien d'accord, lui rappelle quelqu'un qu'elle a connu à Kiev au moment des pogroms. Et vous avez cette phrase, page 144. Elle se laisse pour la première fois glisser vers Albert. Elle commence à l'accepter comme miroir. Et là, c'est votre thématique à vous, Selim Nassib. Vous dites que juifs et arabes sont un peu les deux faces d'une même médaille.
Oui, absolument. Et en fait, en construisant le roman, bon, c'est toujours Yolande Zuberman qui est à côté de moi. J'ai dit, mais on ne peut pas croire ça. Et c'est elle qui a l'idée. Elle me dit, la seule façon de croire ça, c'est s'il est le sosie de quelqu'un qui est juif. Et du coup, la défense se baisse. Et une fois qu'elle est baissée, on a vu le visage de l'autre, on ne peut plus reculer. Ça, c'est une invention pour rendre crédible ce qui est difficile à croire, quand même, connaissant Golda.
Oui. Hein? C'est une invention presque d'ordre psychanalytique. Hein? C'est peut-être ce dont le Proche-Orient a besoin, d'une belle petite psychanalyse.
Ah, ça, oui, absolument.
En tout cas, ce que je remarque, sans faire le divan, c'est que vous, Selim Nassib, né dans le journalisme, vous vous barrez vers l'imaginaire depuis les années 90. Est-ce que vous diriez que le journalisme ne vous permet plus de dire ce que vous aviez à dire?
C'est-à-dire que c'est un peu ambigu, le journalisme, pour moi. J'ai eu un peu l'impression, en étant journaliste, d'être le traducteur d'un monde pour un autre.
Ah oui. Alors que vous étiez acteur de l'histoire, à un moment donné.
Enfin, acteur, non.
Pris dans l'histoire.
Pris dans l'histoire, mais vraiment cette histoire de traducteur. Je sais comment les gens ressentent. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'ils ressentent.
Mmh. Voilà. Une petite parenthèse liée à l'actualité, malgré tout, on ne peut pas s'en empêcher sur RFI. Au moment où Mahmoud Abbas, le président de l'OLP, vient de condamner la Shoah, qu'il a qualifiée de crime le plus odieux de l'ère moderne, est-ce que vous croyez encore une solution politique possible au Proche-Orient?
Ce n'est pas ça qui empêche la solution politique. C'est pas ça. C'est ce qui empêche. Il faut quand même que les uns disent, voilà une terre où vous pouvez faire votre pays, et les autres disent, vous êtes là en Israël et c'est chez vous. Voilà. Tant qu'on n'aura pas dit ça, je veux dire, que les Israéliens disent, on va vous rendre la Cisjordanie, que nous appelons Judée, Samarie, etc. On va vous la rendre. Et là, vous allez pouvoir faire un État. Shoah, pas Shoah, tout ça, bon, c'est de l'histoire. Malgré tout, les Palestiniens se rendent compte que on leur a dit ce serait bien de condamner la Shoah. Ils ont condamné la Shoah. Condamner la violence, ils ont condamné la violence. Accepter l'État d'Israël, ils l'ont accepté. C'est pas... Tout ça, c'est des... Pour éviter la chose fondamentale, il faut leur donner un territoire pour qu'ils fassent un État. Et à ce moment, ce sera possible. Tout le monde le sait.
Quelle langue écrivez-vous d'Arabie? L'amour.
J'écris en français, je ne sais pas écrire dans une autre langue.
Alors, quid de l'arabe, quid de l'hébreu?
L'hébreu, je ne le connais pas.
Pourtant, vous dites avoir été éduqué comme un petit garçon juif à Beyrouth.
Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parlait français à la maison et que mon père m'emmenait à la synagogue aux grandes fêtes où j'entendais...
Les prières en hébreu.
Les prières en hébreu. Mais ça ne veut pas dire qu'on comprend la langue. Donc l'hébreu, l'arabe, c'était... Bon, je me suis remis à l'arabe au moment de l'engagement politique, à 17-18 ans. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, il ne faut pas apprendre l'arabe, on vit dans ce pays. Il y avait comme ça comme une volonté de... d'être là.
Donc, il n'y a jamais une volonté de rattraper l'hébreu?
Non. L'hébreu, c'était pour Israël. Et moi, j'étais anti-israélien, puisque j'étais avec les Palestiniens. C'était ça, la martingale de départ.
Est-ce que pour vous, la bonne question, pour faire un clin d'œil à ce film dont on parlait tout à l'heure, la bonne question, c'est est-ce que vous feriez l'amour avec une arabe?
C'est-à-dire que moi, je me considère comme arabe. On dit juif arabe, mais je trouve que c'est idiot. On est juif et on est arabe, c'est deux choses.
Mais vous avez choisi un camp, véritablement, en termes de sensibilité.
C'est-à-dire que je sens ce que les gens sentent dans le monde arabe. C'est ça l'histoire. Je sens vraiment.
Et comment vous expliquez que vous ne sentez pas ce que sent le peuple juif?
Mais je sens aussi.
Oui,
ah,
mais
oui.
Vous avez choisi
parce que je trouve que dans l'histoire, il y en a un qui a vraiment eu tort, qui était de prendre la terre de quelqu'un d'autre en leur disant « Je n'ai rien vu, c'est chez moi ».
Je
paix comme... prise de son.
Et prise de tête aussi avec votre épiderme sonore qui commence donc avec une prière juive, la prière Anenu.
Oui. Mais c'est pour une raison presque musicale, c'est que quand, quand j'étais petit et qu'on m'emmenait à la synagogue, il y avait certaines musiques qui me plaisaient, dont celle-là, Anenu, qui veut dire réponds-nous, 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 réponds-nous à l'infini. La musique était jolie. Et du coup, quand je... Bon, ce n'était pas tout à fait la même que celle que j'entendais.
Mais parce
quand
que là, on
n'a
pas la version proche.
Ah, vous n'avez pas la version proche.
Vous
mais
savez
quand
nous
même...
la faire, vous ?
Ah non, incapable, ça.
Alors après, c'est poursuivi par les bombardements. Ça fait partie aussi de votre
oui.
bande-son, malheureusement. Vous avez écrit Selim Nasib un soir à Beyrouth, fou de Beyrouth. Des nouvelles où vous faites revivre ce monde levantin qui fait de tradition dure et qui est toujours bouleversé par la guerre. Pour dire que lorsque vous écrivez, votre plume est presque systématiquement entraînée sur les traces de cette terre natale, de cette ville natale. Pour quelle raison ?
Ça, c'est un peu quelque chose qui me rend un peu prisonnier, à dire vrai.
Vous savez pourquoi ?
Pour écrire autre chose. Mais parce que cette région, elle ne se résout pas. Le problème qui m'a fait prendre conscience quand j'avais 16 ans, qu'il y avait quelque chose qui clochait, n'est pas résolu. C'est ça. Bon, je veux dire, mais c'est peut-être un peu facile, parce qu'il y a nombre de gens qui ont quitté cette région, qui ont dit, allez, bye bye, moi j'ai une autre vie à faire. Le compte, c'est que j'ai fait une autre vie, parce que je suis à Paris. Mais il est resté ce goût de... Cette histoire que je vis n'est pas la vraie histoire. Il y a une autre histoire qui est au fond de ma tête et que j'écris quand j'écris.
La fiction vous permet de retrouver cette vie que vous auriez peut-être dû avoir ailleurs.
Mais c'est parce que si je disais que j'aurais dû avoir, c'est une nostalgie.
Ça
va pas non plus. C'est pas de la nostalgie. Ouais. C'est juste qu'il y a comme un clou dans le manteau qui à la fois qui empêche d'avancer, mais qui en même temps vaut la peine qu'on le regarde parce que je trouve qu'il y a pas beaucoup de gens qui le regardent de cette façon. Donc peut-être que c'est ça que j'ai à dire.
Vous qui en même temps virevoltez comme un poisson dans l'eau ici à Paris. Est-ce que vous avez quand même un sentiment profond de déracinement ?
D'abord, je ne sais pas si je vais révolte comme un poisson dans l'eau.
Oh, vous êtes chez vous ici, ça va ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Les codes.
Le déracinement.
GPS, tout, quoi.
Oui, bien sûr. Je me méfie un peu.
Ouais.
Je me méfie de déracinement. C'est tout de suite l'exil, la nostalgie, ouais. Tout ça.
Ouais. Tout le paquet.
Tout le paquet, là, bon. Non, je sais
vous
que c'est plus difficile.
Quoi.
Oui, je
vous
laissez circuler.
Des checkpoints, en fait.
Et... oui.
Ça se traduit pas à la radio. Comment on fait un hug.
Au son.
En sol majeur, @rfi.fr.
Un chèque, me souffle Laura Pinto. Merci Selim Nasib d'être passé en sol majeur. Je rappelle votre livre. J'aime bien cette salade de fruits que je sers régulièrement aux invités. Je vois que ça,
une très bonne idée.
Le melon a du succès. Je rappelle votre livre Un amant en Palestine, paru chez Robert Laffont, notamment. Hein. Et puis Would You Have Sex with an Arab, que je recommande vraiment, film sorti en DVD. Et puis c'est avec Hier ou Aujourd'hui qu'on va se quitter. En chanson, c'est-à-dire soit avec les Stones, Satisfaction, soit avec Daft Punk, je vais me faire gronder, avec Get Lucky, qu'est-ce que vous choisissez ?
Aujourd'hui.
Ah ouais, Daft Punk.
Ah ouais, carrément.
Ah carrément !
Oui, non, mais je trouvais formidable que Daft Punk soit joué par la police, par l'orchestre de la police russe à l'ouverture de Sochi, avec 3 millions de spectateurs, alors que moi je les ai rencontrés parce que c'est des amis par Yolande, hein, et le fait d'avoir un casque sur la tête pour ne ressembler à rien, moi ça me dit quelque chose, je sais pas.
C'est peut-être une solution ça pour le Proche-Orient.
Par exemple.
Hein, pour y penser.
Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Good fun.
cousin has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Enchaîne majeure, podcastable et forcément discutable sur notre Facebook, tricoté chaque samedi et chaque dimanche à 13h10 temps universel avec Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On se retrouve la semaine prochaine avec l'historien israélien Shlomo Sand. À la semaine prochaine.